C'est ce qu'on a dit, la sixième séance ou partie de la formation théologique. Et c'est sur la vie du chrétien. Donc il y a 2 mois, nous avons parlé de la réponse de l'homme à la rédemption qui lui est offerte par Dieu. Alex a exposé la doctrine du salut en 2 parties, ce que Dieu a fait pour nous et la réponse de l'homme à ce que Dieu a fait pour nous. Donc, Dieu appelle des hommes, il justifie des hommes, Dieu adopte des hommes, Dieu sanctifie des hommes, et finalement, Dieu glorifie des hommes. La réponse de l'homme est la foi en Jésus, la repentance des œuvres mortes, l'obéissance à la parole et l'assurance de salut, et la participation au culte de Dieu. Comme Alex l'a dit, la réponse de l'homme est une réponse radicale qui mène à un changement radical dans la vie. Depuis la dernière fois, j'avais hâte que nous étudiassions la suite de la réponse de l'homme au salut. Comme on a commencé à le voir, notre repentance impliquait que nous vécussions dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il était important que nous acceptassions ce merveilleux salut et que nous bussions la coupe désaltérante de la vie en Christ. Ok, c'est tout pour le subjonctif imparfait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude de la réponse de l'homme à Jésus en étudiant la vie du chrétien. Comment la foi s'applique-t-elle dans la vie quotidienne? Donc après notre conversion à la foi chrétienne, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? La réponse est simple. On reste devant la télé avec un coca et un sac de chips et on attend le retour de Jésus. J'ai fini mon exposé priant. Non, je plaisante. Non, ça c'est ridicule. Nous sommes appelés à faire quelque chose d'utile. Il y a une grande attente qui repose sur les chrétiens. Cette vocation consiste en notre réponse à ce que Dieu a fait pour nous. Comme Martin Luther l'a dit, la vie chrétienne est une vie de repentance. Ça commence avec la repentance. Mais de la repentance découle l'action. Il faut que notre réponse à Dieu soit une vie qui le glorifie et qui l'honore. Aujourd'hui, on va considérer 10 points importants en rapport avec la vie du chrétien. Donc, on va commencer avec la loi morale de Dieu. Et je vais lire quelques textes. Le psaume 119, verset 160. Je vais commencer avec ça. Le principe de ta parole est la vérité, et toute ordonnance de ta justice est éternelle. Et Matthieu 5, 17. C'est Jésus qui parle dans ce texte. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu non pour abolir, pardon, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc au cœur de l'Ancien Testament, on trouve la loi de Dieu qui donne des instructions pour mener une vie sainte. Et au cœur de la loi morale de Dieu, on trouve les 10 commandements, qu'on appelle aussi le décalogue. Pour les chrétiens, comme pour les juifs, le décalogue est un résumé de tout ce qui est important pour mener une vie moralement bonne. Dans la tradition chrétienne, on croit que la loi nous présente une norme absolue d'obéissance parfaite qui s'applique à tout le monde, partout et tout le temps. Donc la Bible nous dit que la loi morale est inscrite dans le cœur et dans la conscience de l'homme. D'Adam jusqu'à aujourd'hui, nous avons la loi de Dieu. Évidemment, la façon dont Adam considérait la loi de Dieu était un peu différente de la façon dont elle se présente à nous aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est le fait que l'applicabilité de la loi continue. ce qui s'appliquait moralement à Adam s'appliquait moralement à Moïse et s'applique moralement aujourd'hui. Les prescriptions de Dieu ne changent pas. L'importance de la loi, et spécifiquement du décalogue, se trouve dans le fait que ces préceptes ne parlent pas juste de notre responsabilité des uns vis-à-vis des autres, ils parlent de notre responsabilité vis-à-vis de Dieu. La portée du décalogue est donc aussi bien verticale qu'horizontale. Les premiers quatre commandements parlent de l'objet de notre adoration et de la façon dont on doit l'adorer. Et les six autres commandements parlent des relations humaines et de leurs implications spirituelles. Donc, ça, c'est la loi morale. Mais il y a deux autres aspects de la loi de Dieu. Il y a aussi la loi civile et la loi cérémonielle. Ce qui est important à retenir ici, c'est que la loi civile et la loi cérémonielle ont trouvé leur accomplissement en Jésus. La nation d'Israël, ou plutôt le peuple de Dieu, ne se limite pas aujourd'hui à un peuple ethnique particulier dans un lieu géographique particulier. C'est la foi en Jésus et l'obéissance à Dieu qui délimite le peuple de Dieu. La loi civile de l'Ancien Testament n'est plus applicable parce que le peuple de Dieu n'est plus un État. Et la loi cérémonielle n'est plus applicable parce que Jésus a été le sacrifice ultime. Mais dernière, la loi civile et la loi cérémonielle, il y a la loi morale. Et c'est cette loi qui reste pour toujours. Les deux autres aspects de la loi ont donc existé pour révéler le besoin d'un Messie, pour prendre fin une fois, que le Messie serait venu et qu'il aurait accompli son œuvre. Donc pour les croyants, nous ne sommes pas sous la loi comme sous une alliance des œuvres, c'est-à-dire si la faveur de Dieu à notre égard reposait sur notre obéissance à la loi. Mais nous sommes quand même sous la loi, dans un sens, en ce qui concerne ces instructions pratiques pour une vie sainte. Pour les croyants, la loi révèle les exigences de Dieu, la perfection de Dieu et le péché de l'homme. Pour les non-croyants, la loi révèle Dieu, elle les avertit et elle restreint les passions. En tant que chrétien, il y a une tentation de penser qu'étant donné que nous sommes sous l'alliance de la grâce, nous n'avons pas besoin de la loi morale de Dieu. Mais à mon avis, nous avons une plus grande obligation vis-à-vis de la loi morale et nous avons une plus grande capacité de vivre en accord avec la loi parce que nous sommes libérés de la tyrannie du péché grâce à Jésus. Nous avons l'Esprit pour nous aider à vivre dans la sainteté. Quand on réfléchit à la loi de Dieu, ça soulève naturellement la question de la liberté chrétienne. On va donc examiner ce que ça veut dire la liberté chrétienne. J'ai deux textes ici. Peut-être quelqu'un peut lire Jean 8, 34 à 36, et je vais lire l'autre texte, Romains 6, 22 et 23. Donc, on va commencer avec le texte en Romains. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Et quelqu'un d'autre peut lire Jean 8.
Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Quand l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre.
Merci. Donc la liberté chrétienne se manifeste dans trois domaines, comme on a lu dans les versets. Premièrement, le chrétien est libre de jugement de la loi. Il est libre de jugement de la loi. Il n'est pas obligé de vivre selon les exigences de la loi pour être sauvé. Il n'est pas sous la loi, mais sous la grâce. Ensuite, le chrétien est libre de la domination du péché. Satan n'est plus le seigneur dans la vie d'un chrétien. Bien que le chrétien continue de vivre dans un monde dominé par le péché, il vit sous le règne du roi des rois et pas du prince de la puissance de l'air, comme on lit en Éphésiens 2. Et la troisième chose, le chrétien est libre de la mort. 1 Corinthiens 15 parle de la victoire de Jésus sur la tombe. Le chrétien va mourir physiquement, mais il a l'espérance de la résurrection. Donc le chrétien est libre du jugement de la loi, il est libre de la domination du péché et il est libre de la mort. Si nous sommes libres en tant que chrétiens, il faut donc que nous sortions de la prison. Imaginez quelqu'un qui serait né dans une prison et qui aurait habité là toute sa vie. Par la fenêtre de sa cellule, à travers les barreaux de fer, il peut voir les arbres, le ciel, les gens qui passent dans la rue. Mais un jour, quelqu'un lui dit, ta porte est ouverte. Tu peux sortir quand tu veux. Alors imaginez qu'il reste dans la prison et qu'il finisse sa vie dans cette petite cellule. Ça, c'est exactement la situation dans laquelle nous vivons si, en tant que chrétiens, nous demeurons sous la loi ou sous le péché. Nous sommes complètement libres de sortir de la prison par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas coincés dans une vie de péché ni sous la tyrannie de la loi. Mais il ne faut pas confondre la liberté avec le désordre ou l'anarchie. Nous avons été libérés du péché, pas libérés pour que nous puissions pécher. Notre liberté est placée sous l'autorité de Christ. Donc, notre liberté en Christ concerne aussi notre conscience. Il faut savoir qu'il existe des règles qui sont contraires à l'enseignement de la Bible, mais qui sont quand même apparues et qui portent atteinte à la liberté chrétienne. Par exemple, il faut chanter seulement des psaumes dans l'église, ou il faut porter certains vêtements. Il ne faut pas boire des boissons fermentées. Il ne faut pas manger de rôti de porc avec une sauce à la pomme, etc. Quand on ajoute des règles à l'évangile, on sabote la croix de Jésus. De plus, quand on ajoute des règles, notre conscience se trouve liée par nos propres règles, comme on le voit dans Romains 14. Il ne faut donc pas ajouter des règles qui sont contraires à notre liberté en Christ. Mais il y a aussi des règles qui ne sont pas contraires à l'enseignement de la Bible, mais qui sont ajoutées à la Bible et qui ont aussi pour effet de limiter la liberté chrétienne. Par exemple, l'Église romaine dit qu'il faut assister à la messe tous les dimanches et tous les jours saints, qu'il faut jeûner certains jours, qu'il faut confesser ses péchés certains jours, etc. Bien sûr, l'idée d'assister au culte tous les dimanches ne pose aucun problème, ni le fait de jeûner, ni le fait de confesser nos péchés tous les jours à Dieu. Mais bien que ces pratiques ne posent aucun problème, la Bible est claire sur le fait qu'il ne faut pas s'attacher à des prescriptions purement humaines. Une fois de plus, j'insiste sur le fait que bien que nous soyons libres, cette liberté ne consiste pas à pouvoir faire n'importe quoi. Nous restons attachés aux 10 commandements, à l'enseignement moral de Jésus, des apôtres et de toute la Bible. Donc on va regarder les œuvres bonnes et les deux textes. Jacques 2, 14 à 17, quelqu'un peut chercher ce texte. Et je vais lire Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jacques 2, 14 à 17.
Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver?
Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
Merci. Une des choses qui sont indissociables de la vie chrétienne, ce sont les œuvres bonnes. Une vie de foi est caractérisée par des œuvres bonnes, et la source des œuvres bonnes est Dieu. Les vraies œuvres bonnes découlent de Dieu et viennent d'un cœur repentant. Les textes de Westminster disent que les vraies œuvres bonnes, ce sont celles qui sont faites par des chrétiens selon la volonté de Dieu. Si un non-croyant donne de l'argent à une œuvre caritative, c'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas une œuvre bonne dans un sens biblique. Les vraies œuvres bonnes sont faites en conformité avec les commandements de Dieu selon sa volonté. Et elles sont faites par une vraie sincérité de cœur. Hébreux 11, 6 dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Une condition préalable pour les bonnes œuvres, c'est la foi. Sans la foi, toutes nos œuvres bonnes sont mal orientées. Par exemple, indépendamment de la foi, comment définissons-nous ce qui est une œuvre bonne? Pardon, ça c'est compliqué à dire en français. Dans une société non-croyante, on peut dire que l'avortement est un bon service rendu à la société, par exemple. On peut dire que faire un don pour la construction d'un centre de yoga est une bonne œuvre, par exemple. Indépendamment de la foi et indépendamment d'une bonne compréhension de la Bible, il n'y a pas d'œuvre bonne. Nos bonnes œuvres ont pour objet premièrement nos frères et sœurs en Christ. Après ça, on peut aider les autres. Se préoccuper des besoins d'autrui dans le cadre de l'Église, c'est un acte d'obéissance à Dieu. Quand les chrétiens laissent le gouvernement ou les œuvres caritatives s'occuper de tous les besoins de leurs frères et sœurs en Christ, c'est l'Église qui se fait dérober une occasion de pratiquer des bonnes œuvres. Malgré l'appel que nous avons à pratiquer des bonnes œuvres, il ne faut pas oublier que les œuvres bonnes viennent en réponse à l'Évangile. Il ne faut donc pas que les œuvres bonnes remplacent l'Évangile. Il y a beaucoup de choses à faire dans le monde pour le bien des autres, mais on ne peut pas mettre sur le même plan la justice sociale et l'Évangile. Saint François d'Assise a dit « Annoncer l'Évangile et, s'il le faut, utiliser des mots. » Autrement dit, faites de bonnes œuvres et oubliez l'Évangile. Ça, c'est n'importe quoi. La première chose qu'on doit faire, c'est de prêcher l'Évangile avec des mots, parce que sans Christ, toutes les œuvres bonnes du monde sont nulles. Donc ça, c'est les œuvres bonnes. On va regarder le mariage, le divorce, les éthiques sexuelles. Donc, quelqu'un peut lire Genèse 2, 18 à 25, quelqu'un autre Matthieu 19, 8 et 9, et 1 Corinthiens 7, 18 à 20, s'il vous plaît.
L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte.
Merci.
Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée, commet aussi un adultère.
Merci.
Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncis. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il était appelé.
C'est le bon texte? Je ne pense pas.
C'est 8 à 10 peut-être.
Que ok, peut-être, oui. Je n'ai pas vérifié tous les textes.
C'est
lui qui est marqué. Désolé. Alex a déjà découvert
un autre
erreur, ouais, qui était... Quand j'ai tapé les...
Peut-être 8 à...
Ouais, on peut chercher un texte qui marche bien.
8 à 11.
Alors, à ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, et qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme.
C'est mieux, merci. Oui, il y a beaucoup de textes sur le sujet, mais c'est un grand sujet, donc on va commencer avec le mariage. Comme on le voit dans Genèse 2, le mariage, c'est quelque chose de bon. C'est institué et sanctifié par Dieu. Il y a trois éléments nécessaires pour un mariage. La première chose qui est indispensable, c'est que le mariage soit entre un homme et une femme. Un homme et une femme. C'est pas très compliqué, mais c'est pas entre un homme et deux femmes, pas entre deux hommes, pas entre une femme et un animal, et pas entre un homme et un chiffre ou une idée. Ouais. Dieu a voulu qu'une femme se marie avec un homme et inversement. Ça, c'est la seule manière pour qu'un mariage puisse exister bibliquement. Souvent dans la Bible, Dieu parle de sa relation avec son peuple comme d'un mariage. Quand le peuple d'Israël rendait un culte à d'autres dieux, c'était un adultère. Et de la même façon, l'Église est l'épouse de Christ. Si on rend un culte à d'autres dieux ou à des idoles, on a commis un acte de polythéisme ou pour ainsi dire un acte de polygamie. Voyez-vous le lien dans l'écriture entre la polygamie et le polythéisme? Je le répète donc, un vrai mariage, c'est entre un homme et une femme. Et la deuxième chose qui est indispensable, c'est que cette union soit pour toute la vie. Pour toute la vie. Le divorce n'est pas une option légitime dans un mariage chrétien. La troisième chose qui est indispensable, c'est qu'il y ait un serment entre l'homme et la femme. Devant les autorités civiles auxquelles Dieu a donné le pouvoir de marier des couples. Pour un couple chrétien, ce serment est fait en présence de Dieu et en étant entouré par l'Église. La raison pour laquelle le divorce est considéré comme quelque chose d'horrible dans la Bible, c'est parce que le couple s'unit devant les autorités civiles par un serment qui est reconnu et béni par Dieu. Divorcer est un péché contre Dieu, contre l'époux et l'épouse, contre sa famille et contre la communauté des croyants. Dans un mariage, on reçoit le soutien, l'aide et l'encouragement de ceux qui sont autour de nous. De même, le concubinage est incompatible avec la Bible parce qu'il n'y a pas de serment, ni même de promesse publique. Même d'un point de vue pratique, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de fondement pour une relation sûre et émotionnellement solide. Quand il n'y a pas de serment public, on compte sur l'amour pour que l'attachement soit solide et durable, alors qu'avec un serment, on compte sur l'attachement pour que l'amour soit solide et durable. Je vais répéter ça parce que je pense que c'est très important. Quand il n'y a pas de serment public, on compte sur l'amour pour que l'attachement soit solide et durable. Alors qu'avec un serment, on compte sur l'attachement pour que l'amour soit solide et durable. Voyez-vous la différence? L'attachement et le serment sont la base, la fondation. L'amour lui-même n'est pas une base sûre. Les couples devront faire face à des difficultés, à des disputes et à d'autres problèmes. L'engagement public et le serment devant Dieu sont indispensables pour un mariage chrétien. Alors, pour résumer, le mariage est un attachement sous serment entre un homme et une femme pour toute la vie. Mais qu'est-ce qu'on fait de divorce? Si on regarde les statistiques, il y a autant de divorces parmi les couples chrétiens que parmi les couples non-croyants. Mais ça contredit tout que j'ai dit sur la solidité d'un mariage chrétien. Pourquoi y a-t-il tant de divorces parmi les chrétiens? Est-ce qu'il est permis aux chrétiens de divorcer? La Bible est claire sur le fait que le divorce est contraire à la volonté de Dieu. Jésus a dit que le divorce était permis seulement à cause de la dureté des cœurs. Les statistiques qui concernent le divorce sont incroyables parce qu'elles démontrent que trop de chrétiens méprisent la loi de Dieu. Quand on divorce, on ne pêche pas seulement contre son épouse, comme j'ai dit déjà, mais contre ses enfants, contre ses frères et sœurs en Christ et contre les autorités civiles. C'est aussi un péché contre Dieu, bien sûr. Le divorce est grave, très grave. C'est un acte détestable. Les statistiques sont incroyables parce que notre ignorance de la loi de Dieu est incroyable. Selon la Bible, il n'y a que deux situations qui permettent le divorce. Quand il y a infidélité sexuelle dans le mariage et quand un conjoint non-croyant abandonne le foyer. La Bible est claire sur le fait que si vous vous mariez, il faut rester marié. Si vous êtes marié avec un non-croyant, restez marié. Si vous êtes célibataire, ne vous mariez pas avec un non-croyant. Le mariage chrétien est saint, il doit rester saint. Pour en savoir plus sur le sujet, voyez 1 Corinthiens 6 et 7. J'espère que ça c'est le... Ouais, c'est ça. Ouais.
En fait, le texte, c'était 1 Corinthiens 6, 18 à 20.
Oh, c'est ça. Ok. Troisième
texte.
Peut-être on peut lire.
Ouais.
Vas-y.
Fuis l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
Merci. C'est parfait parce qu'on va discuter maintenant la sexualité. Donc je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire si vous êtes marié. La sexualité est une bonne chose. La sexualité elle-même n'est pas une perversion. Le Cantique des Cantiques affirme que la sexualité dans le cadre du mariage est une chose normale, nécessaire et bonne. La sexualité n'est pas seulement pour but la procréation, mais en même temps, comme il est écrit dans Genèse 1, 28, il faut quand même lui reconnaître ce but. La sexualité existe pour que les hommes se multiplient. Les enfants sont une bénédiction de Dieu. Et je préfère croire ce que la Bible dit à propos des enfants plutôt que ce que dit la société. Parce que beaucoup de gens disent les enfants sont trop chers, c'est trop de temps, trop de défis, des choses comme ça. Mais à mon avis, la Bible dit c'est une bénédiction de Dieu. Et j'ai perdu mon place. Je suis très fixé sur les notes, comme vous avez remarqué. Ok. Pour ceux qui ne sont pas mariés, la Bible contredit complètement notre culture. Notre société et nos amis non-croyants disent que les relations sexuelles sont permises avec n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, mais ça c'est n'importe quoi. L'immoralité sexuelle est condamnée clairement dans l'Écriture. Je connais trop des gens adultes chrétiens qui disent « c'est pas grave, Dieu nous pardonne ». Ils se justifient en disant que c'est trop tard, ou ils disent à leur petit ami « ne t'inquiète pas, les pasteurs et les anciens ne savent rien ». Mais en réalité, c'est grave. Jésus a dit que c'était grave. Les apôtres ont dit que c'était grave, et les prophètes ont dit que c'était grave. Dieu a institué des règles pour la sexualité, et il ne l'a pas fait pour nous empêcher de nous amuser dans la vie. Il a fait plutôt pour nous protéger émotionnellement, physiquement et spirituellement. Si vous êtes chrétien, ce n'est pas à la société laïque de définir les normes de votre sexualité. C'est Jésus, au contraire, qui est notre juge. Enfin, en ce qui concerne le mariage, j'ajoute que selon Éphésiens 5, le mariage est une grande responsabilité. Le mari doit aimer sa femme et pouvoir à ses besoins. De la même façon, la femme doit respecter son mari et demeurer soumise à son autorité. Je sais que dans notre société, il y a des femmes qui voudraient me tuer pour avoir dit ça, mais c'est pas moi, c'est Dieu qui donne ses instructions. La responsabilité d'une femme est premièrement sa relation à Dieu, ensuite sa relation à son mari, ensuite sa relation à ses enfants et enfin son métier. Nous n'aimons pas l'idée de la soumission parce que ça évoque l'image d'un mari qui frappe du poing sur la table et qui exige que sa femme lui fasse un repas ou qu'elle s'occupe des enfants, etc. Mais pour les maris, pour les hommes, si vous aimez votre femme comme Christ aime l'Église, il en résultera un environnement où la soumission sera possible et bénéfique à tous. Pour les femmes, vous ne devez pas suivre les philosophies séculières ou féministes en ce qui concerne votre rôle. Le monde dit « fais comme tu veux, n'écoute personne, crois en toi-même ». Le problème avec ça, c'est que si nous croyons en nous-mêmes, nous ne pouvons pas croire en Dieu en même temps. C'est l'un ou l'autre. Bibliquement, le fait d'être une femme ne signifie pas qu'on est stupide, qu'on doit être un esclave. Bibliquement, si on regarde Proverbe 31, qu'on saura plus sur le sujet, ce chapitre de Proverbe dit qu'une femme, c'est quelqu'un d'intelligent, de capable, de fort, de consacré, qui mérite le respect et qui est en même temps sexy. Amen. On continue. Les disciplines spirituelles, la prière et l'étude de la Bible. Donc on va lire deux textes, Philippiens 4, 4 à 6 et Psaume 119. Je vais lire les deux versets en Psaume 19. 119, pardon. Je sers ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes.
Merci Alex. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur le sujet parce que nous savons déjà que la prière et l'étude biblique sont des éléments essentiels de la vie chrétienne. Ces disciplines spirituelles sont essentielles pour notre santé spirituelle. La prière est le moyen que nous avons de communiquer avec Dieu. Sans l'écriture, c'est quelque chose qu'il faut faire chaque jour, sans cesse. Quand on prie, on loue le Seigneur, on se repent de ses péchés, on le remercie et on présente ses requêtes à Dieu. De la même manière, il faut que nous grandissions dans notre connaissance de la Bible aussi. Imaginez que Dieu vienne à Lyon à une date précise seulement pour prêcher lui-même au stade de Gerland. Il vient pour expliquer qui il est, pour présenter la doctrine chrétienne et pour répondre à toutes nos questions. Il y a seulement 20 000 billets disponibles pour l'événement. Sylvien, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais directement au magasin pour acheter mon billet sans hésitation. Mais en réalité, cette situation est déjà produite. Ça s'appelle la Bible. La Bible. Dieu a déjà présenté la doctrine chrétienne. Il nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin. Il faut que nous réagissions face à la Bible de la même façon que si Dieu était présent physiquement pour nous instruire. La Bible contient tout ce dont nous avons besoin. Elle nous parle de qui est Dieu pour qu'on puisse comprendre sa nature et son caractère. Elle nous parle de la loi de Dieu pour qu'on puisse comprendre la gravité de nos péchés. Il nous parle du salut qui vient par Jésus pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et finalement, il nous parle de la vie chrétienne pour qu'on puisse honorer Dieu et le glorifier. Pour ces raisons, la prédication de la parole de Dieu est un élément central du culte. On va regarder le sabbat. Il y a deux textes à lire. Exode 20, versets 8 et 11, et je vais lire Marc 2, 27, qui dit « Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. »
Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié.
Merci. Le sabbat est un autre élément essentiel de la vie chrétienne, et je ne vais pas parler longtemps sur le sujet aujourd'hui, mais sachez que le sabbat s'applique aux chrétiens, donc on va quand même s'y intéresser rapidement. Le but du sabbat, c'est l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu. Dans le livre d'Exode, comme on vient de lire, la loi sur le sabbat était donnée dans le contexte des lois qui concernaient l'adoration du vrai Dieu de l'univers. Le sabbat était déclaré saint pour que les gens aient un jour particulier destiné au culte. C'est un jour consacré à Dieu pour sa gloire. Mais comme on le voit dans le livre de l'Exode et dans l'évangile de Marc, le sabbat existe aussi pour le bien de l'homme. Ce qui est important à retenir, c'est que les chrétiens devraient réserver un jour par semaine au repos, au culte rendu à Dieu et à la communion fraternelle. On va regarder le jeûne. Quelqu'un peut lire Matthieu 6, versets 16 à 18.
Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Merci. Dans ces paroles de Jésus, on voit quelle est l'hypocrisie de ceux qui jeûnent pour leur propre intérêt par rapport à ceux qui jeûnent pour Dieu. Quand nous jeûnons, nous le faisons pour Dieu, pas pour attirer l'attention sur notre spiritualité. Il y a une certaine religion qui oblige ses adeptes à jeûner pendant un mois chaque année. Pendant qu'il fait jour, personne ne mange et les médias montrent leur merveilleux engagement vis-à-vis à Dieu. Mais dès que la nuit tombe, ces gens se transforment en gloutons, dans un sens, qui consomment pendant leur jeûne plus de calories que pendant n'importe quel autre mois de l'année. C'est incroyable. Et c'est drôle aussi, en même temps. Est-ce que je peux dire ça? Mais ouais, c'est drôle. J'ai un ami qui habite dans un pays de Moyen-Orient qui m'a dit que pendant le mois de Ramadan, les restaurants restent souvent ouverts pour les gens pendant la journée. Mais ils mettent des rideaux noirs devant les fenêtres pour cacher les gens qui mangent. C'est incroyable. Pour ces gens, ce n'est pas le jeûne et l'adoration de Dieu qui sont importants. C'est clair. Ce qui est important pour eux, c'est plutôt l'impression qu'ils se donnent de faire quelque chose de bien, comme on a lu dans le texte, en Matthieu. Mais Jésus a dit que le jeûne n'était pas un spectacle destiné à montrer notre spiritualité. C'est une discipline spirituelle qui existe pour la gloire de Dieu. L'idée est de priver de nourriture ou de quelque chose d'autre pour une période spécifique afin de se concentrer sur Dieu dans la prière. Ça, c'est l'idée. La faim nous fait songer à ce qui est pour nous la vraie nourriture, et la vraie subsistance, c'est-à-dire la parole de Dieu et notre relation avec lui. Donc ça, c'est le jeûne. On va regarder la dîme. Donc, peut-être qu'est-ce qu'on peut lire Hébreux 7, 4 à 10 et Malachie 3, 8 à 10.
Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna le dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait des promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham.
Merci. Et Malachi 3, 8 à 10.
Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me frustrez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure.
Merci. Le texte que nous avons lu sur Abraham, de Melchisédek, est important parce que c'est un texte qui nous montre la supériorité de Melchisédek en tant que prêtre par rapport au prêtre selon l'ordre de Lévi. Le raisonnement est simple. Celui qui est supérieur a reçu la dîme de celui qui est inférieur. Abraham, avec tous ses descendants dans ses reins, a donné la dîme à Melchisédek parce que Melchisédek était supérieur à Abraham. Mais l'auteur dit que Jésus est supérieur à Melchisédek. Le but de ce texte est de montrer la supériorité de Jésus. mais on peut aussi en tirer certains principes importants concernant la dîme. L'idée de la dîme transcende la loi de Moïse. C'est une pratique instituée par Abraham au moment où il a donné la dîme à Melchizedek, qui lui-même était une préfiguration de Jésus-Christ. La dîme est aussi une forme de louange à Dieu, faite à Dieu. Pour les chrétiens aujourd'hui, nous donnons la dîme pour confesser la supériorité et l'autorité de Jésus, dans un sens, qui est notre prophète, notre prêtre et notre roi. Selon Malachi 3, nous donnons la dîme pour montrer que tout ce que nous avons est à Dieu. Quand le peuple de Dieu ne donne pas la dîme, nous frustrons Dieu. La dîme est un acte d'obéissance à Dieu. Ne pas la donner est un vol, puisque quand nous ne donnons pas la dîme, nous prenons quelque chose qui est à Dieu et nous gardons pour nous quelque chose qui n'est pas à nous. Dieu a condamné le peuple d'Israël pour leur désobéissance dans ce domaine. Et malheureusement, la plupart des chrétiens aujourd'hui sont dans la même situation. Nous cherchons trop d'excuses. Je parle de tous les chrétiens et moi aussi. Nous demandons à Dieu de nous bénir, mais nous lui donnons nos petits restes. Nous ne payons pas nos pasteurs, nous ne soutenons pas nos églises. Des jeunes gens passent 3 ans ou plus aux facultés de théologie pour devenir des pasteurs, mais eux et leurs femmes sont obligés de trouver d'autres boulots. C'est la réalité, juste pour avoir le pain quotidien. C'est grave. Il faut que nous donnions la dîme, ou plus que la dîme, comme on le voit dans 2 Corinthiens 9, avec la joie dans nos cœurs. Donc l'évangélisation, on va lire 2 textes, Romains 10, 14 à 15, et 1 Pierre 3, 15. Je vais lire le deuxième, 1 Pierre 3. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte.
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche?
Merci.
Comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles.
Ok, merci. On l'a vu dans ces derniers mois, c'est Dieu qui régénère, qui justifie et qui sanctifie des gens. Mais bien que ce soit Dieu qui sauve, il utilise les chrétiens pour annoncer la vérité. Nous avons la responsabilité, selon 1 Pierre 3, de connaître notre Bible et de comprendre la culture dans laquelle nous vivons. Et selon Romains 10, nous avons la responsabilité de partager la vérité avec les autres. Dieu nous demande d'agir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ne se convertissent pas parce que nous sommes gentils et serviables. Ils acceptent plutôt l'évangile parce que quelqu'un leur annonçait. Nous sommes obligés d'évangéliser. Donc on va regarder le gouvernement politique pour finir. Donc il y a 2 textes, Romains 13, 1 à 7, et Matthieu 22, 15 à 22.
Romains 13, 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur.
Merci.
Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. « Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique et tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Mais Jésus, qui connaissait leur malice, répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent.
Merci. Selon ces textes bibliques, et selon la confession de la foi de Westminster, les autorités civiles viennent de Dieu avec l'autorité de punir l'injustice pour la gloire de Dieu et pour notre bien. Ils ont cette autorité, même si nous ne sommes pas d'accord avec toutes leurs idées. C'est Dieu qui leur donne ce pouvoir. En fait, c'est l'apôtre Paul qui demande aux chrétiens de respecter les autorités, alors que les autorités de cette époque-là étaient des empereurs romains, non-croyants, injustes, violents et cruels. C'est incroyable l'attitude qu'ont les gens aujourd'hui vis-à-vis de la police, du président et des autorités, même dans l'Église. Quelqu'un, par exemple, garde sa voiture dans un secteur où c'est interdit, la police met un PV, et quelle est la réaction, souvent, trop souvent? On critique et on rejette la responsabilité sur la police au lieu d'accepter les conséquences. Mais quelle devrait être la réaction d'un chrétien dans une situation comme ça? La réaction biblique serait de dire à la police « Merci pour votre travail et pour votre protection. Je suis sérieux. Je sais que c'est... On va continuer. » Nous sommes obligés d'obéir aux lois de notre pays. La seule raison de ne pas accepter les lois de notre pays, c'est si elles contredisent la loi de Dieu. À cette exception près, tous les chrétiens doivent obéissance aux autorités civiles. Je voudrais conclure avec un rappel sur tous les sujets. C'est que la vie de chrétien, c'est une vie qui va à l'encontre des idées du monde. Il faut que nous remplacions nos idées païennes et séculières avec une repentance sincère et le désir d'obéir à notre Dieu. Donc on va conclure avec une lecture. Je vais lire Éphésiens 5, versets 1 et 2. Et après, on peut discuter un peu ou ajouter des idées ou des questions. Donc, Éphésiens 5, 1 et 2. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. »